Bien, bonsoir à tous. Merci d'avoir affronté le froid. Premier froid de l'hiver, on va se réchauffer avec une rencontre que je suis très très fière d'animer parce que je l'ai ardemment voulu. C'est la rencontre avec Guillaume Guéraud, donc auteur de son 10e roman. Donc on peut parler d'une œuvre, hein, quand même une œuvre conséquente, sans même parler des romans pour les plus petits. Et des albums aussi, avec, en collaboration avec des illustrateurs ou illustratrices. Donc c'est une œuvre qui se construit depuis la fin des années 90. Pour présenter Guillaume en deux mots, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il est né en 72, on peut dire ton âge encore. Vous ferez le calcul. Ouais, ouais. Dans la région bordelaise, tout près d'ici, et a passé les 24 ou 25 premières années de sa vie à Florac, dans une cité. Qui va être le décor principal et le décor quasi unique, à part celui des salles obscures de Sans la télé, donc son nouveau roman, que je vais le laisser vous présenter.
Donc je présente le livre.
Oui.
Ça s'appelle Sans la télé. Donc c'est mon dernier roman, il est sorti il y a un mois maintenant. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est juste l'histoire de pour résumer vite fait, d'un gamin qui a pas la télévision chez lui, ni d'ordinateur, et donc qui en profite largement pour aller dans les salles de cinéma. Et en gros, il raconte juste, au fur et à mesure, les films qu'il voit et qui le font basculer de l'enfance à l'adolescence, quoi. Voilà. Sauf que ça se passe pas aujourd'hui, puisque à la base c'est une. Après tu m'arrêtes, hein, sinon je vais pas monopoliser la parole. À la base c'est c'est genre autobiographique. Moi mon enfance c'était quand même il y a longtemps maintenant. Ça se passe genre dans les années 80, quoi. Hein, dans les années 80, toutes les années 80. Voilà, fin des années 70 jusqu'à la fin des années 80. Ce qui est bizarre, c'est que c'est une autobiographie, alors que moi, généralement, c'est des trucs que j'aime pas trop, ni les biographies, ni les autobiographies en tant que lecteur. Je crois pas que j'ai une enfance en plus, c'est sûr, plus intéressante que n'importe qui, quoi, ou que tout le monde. C'est un éditeur qui m'a demandé de raconter ça. Voilà. Moi, j'étais pas spécialement partant, je crois juste que j'ai pas une enfance. Digne d'intérêt ou quoi, pas plus que les autres, quoi, tout cas. Donc voilà, mais après c'est un peu, c'est pas vénal, mais c'est un éditeur italien qui m'a commandé ce livre. Et vu que moi j'ai aucun livre en Italie, même mes livres français, ils sont pas traduits en Italie, je me suis dit, tiens, cet éditeur italien, c'est un éditeur de romans jeunesse. Et je sais pas comment il était tombé sur mes livres en français. Bon, lui, il parle un peu français et il doit le lire un petit peu. Mais il était tombé, sur un entretien que j'avais fait dans une revue. Et il m'avait contacté en me disant, j'ai lu l'entretien. Je lance une collection de romans où les auteurs racontent leur histoire. Et ça serait bien si tu pouvais raconter ton enfance ou ton adolescence, quoi. Ce qui est bizarre, je m'étale, mais c'est pas grave. Il m'avait dit, par exemple, alors j'ai oublié le nom des auteurs, mais c'était que des Italiens. Il m'avait dit, par exemple, on a un tel qui raconte que quand il était jeune, il était dans les jeunesses SS. Un autre qui raconte que son père l'a amené faire la révolution culturelle quand il était petit en Chine. Moi, je lui ai dit, le seul événement politique que j'ai connu, où c'était un peu la fête, c'était l'élection de Mitterrand en 81. À part ça, je vois pas ce que je peux raconter, de politiquement aussi engagé que les jeunesses SS ou les jeunesses de Mao, quoi. Donc je dis, en revanche, le seul truc qui me plairait, le seul truc original de mon enfance, c'est que j'avais pas la télé. Et même aujourd'hui, c'est encore original, de pas avoir la télé. Et puis donc, j'allais au cinéma. Voilà. Et il m'a dit, ouais, très bien. On n'est pas obligé d'avoir vécu des trucs extrêmes. Donc, j'ai dit, ouais. Et alors, cela dit, l'autobiographie, ça me semblait pas non plus un truc bien à écrire. Donc, je l'avais prévenu. J'avais dit, j'écris deux chapitres. Puis, je vous les envoie. Et puis, si ça me plaît et si ça vous plaît, je continue. Mais si ça vous plaît pas ou si ça me plaît pas, mes deux premiers chapitres, je laisse tomber, quoi. Alors j'ai écrit les deux premiers chapitres, j'étais plutôt content, donc je lui ai envoyé, et lui ça lui a plu, donc après j'ai continué, quoi. Voilà. Et alors en revanche, ça s'est retrouvé en France, parce que alors l'italien, en fait, moi j'étais plutôt content, ça me permettait, c'est pour ça que je disais c'était un peu vénal, ça me permettait d'être, d'avoir au moins un livre en Italie, quoi. Et peut-être que après je me disais peut-être que mes livres précédents, mes romans précédents seront traduits, quoi. Ou peut-être même les suivants en Italie. Et donc, je ne sais pas, en fait. Et bizarrement, il est sorti en France, juste avant l'Italie. L'Italie, il est sorti il y a 2 semaines, juste en librairie. Alors qu'en France, ça fait 1 mois. Parce que l'éditeur italien, finalement, lui aussi, il avait un côté certainement vénal dans sa tête. C'était genre, je vais faire une commande. Enfin, voilà, il m'a fait la commande de ce roman. Et en revanche, lui, il savait qu'il allait pouvoir vendre les droits en France. Et moi, je me disais, une autobiographie, je m'en fous. Enfin, j'ai même pas envie qu'elle soit en France. Hein. Il y avait une collection de romans jeunesse chez un éditeur, La Martinière, oui, où les auteurs jeunesse racontaient leur vie. Et moi, je me moquais toujours d'eux en me disant, mais tu te la pètes et tout, tu te la racontes, c'est bon, qu'est-ce qu'on s'en fout de la vie d'un auteur jeunesse, etc. Et donc je m'étais dit, moi, au moins, en plus en Italie, personne ne me connaît, donc ils vont prendre ça comme l'histoire de n'importe qui, quoi. Et après, alors, l'éditeur italien, il a vendu les droits au Rouergue, enfin, qui est mon éditeur classique, quoi, qui édite pratiquement tous mes romans. Et le Rouergue m'a dit non, vraiment, on veut l'acheter. Parce que, genre, la fille du Rouergue, elle m'a dit non, c'est ton meilleur livre et tout. Moi, je crois pas. Hein, je crois qu'il est génial, mais comme tous mes livres. Donc, voilà. Donc, ils ont acheté les droits et ils l'ont édité. Ils l'ont même édité 2 semaines avant les Italiens. Donc, voilà.
Alors, ce qui est bien avec Guillaume, c'est qu'au début, il est timide et après. Après, ça part tout seul.
Ouais, voilà.
Non, mais c'est bien.
Et donc, voilà. Alors, tout ça, c'était pour dire que c'était daté un peu, puisque ça aurait été peut-être plus intéressant de raconter... Mais de raconter un jeune aujourd'hui qui n'a pas la télé, pas d'ordinateur et qui fait son éducation avec le cinéma. Sauf que moi, c'est vraiment ancré dans mon enfance et mon adolescence. Donc, du coup, ouais, c'est les années 80. C'était pas le même genre de film. C'était... Il y avait le ciné-club à Bordeaux, le Trianon Jean-Vigo, Hugo, qui a fermé depuis il y a 1 an ou 2, ou je sais même plus quand. D'ailleurs, son directeur est mort juste après. Donc voilà. Même si ça a été remplacé par l'Utopia et tout ça, on peut quand même voir des vieux films. Mais enfin, voilà, il y a plus. Quoi. Si ciné-récré, ils font un peu à l'Utopia, des programmations jeunesse et tout ça. Bon, voilà. Donc c'est quand même ancré dans les années 80. Ah oui, alors pourquoi je dis ça? Parce que notamment politiquement... alors c'est juste quelques paragraphes, mais il y a des trucs qui sont complètement dépassés. Hein. C'est-à-dire Enfin, moi, politiquement, mais essentiellement ma famille, et puis les gens, les communistes, puis même les socialistes, surtout les socialistes, ils croyaient que... on croyait qu'il y avait une différence entre les socialistes et la droite, par exemple. Hein. Et ça, c'est dépassé aujourd'hui. On sait qu'il n'y a plus de différence entre les socialistes et la droite. Et là, quand je dis « Ouais, super, un président socialiste, on est tous contents et tout », ça, c'est super daté, quoi.
C'est un document historique.
Voilà.
En même temps, il y a un très, très beau passage. Il y a plusieurs très beaux passages dans ce livre. Ce livre est un très beau livre. Et il y a un très beau passage sur la manifestation.
Ouais.
Je trouve que c'est un passage justement où il y a cette notion de solidarité qui n'est pas dépassée quand même tant que ça. Enfin, on ne va pas parler.
Oui, alors oui, c'est le seul. C'est ce que je me disais quand je l'ai. Parce que je le feuillette des fois là. Je me dis ça, voilà. Il y a un chapitre qui s'appelle Tous à la manif. Ouais. Ou alors à Bordeaux, je ne sais plus ce que ça vaut les manifs, mais moi j'habite à Marseille. Et je sais qu'à Marseille, il y a un truc vraiment énorme, quoi. Hein. D'ailleurs, enfin, sans faire les malins, hein, c'est vraiment la ville où il y a le plus de monde à chaque fois. Et je sens un truc vraiment lourd, hein, enfin, et puis touchant, quoi. Vachement fort en plus. Et donc voilà, moi j'ai mis ce chapitre-là. D'ailleurs, alors ce chapitre, c'est bizarre, tout ça à la manif, je l'avais écrit bien avant d'écrire ce livre. Je voulais faire un petit texte d'album jeunesse sur une manif. Et donc j'avais écrit ce chapitre. Alors bon, je l'ai arrangé et tout, c'est pas le même, mais c'était un petit garçon qui allait dans une manifestation et qui voyait que voilà, il se passait des choses, que les gens étaient pas là pour rien, ils étaient fatigués, ils avaient envie d'autre chose et surtout ils étaient nombreux. Et tous ensemble, ils avaient l'air forts, quoi. Alors ça, effectivement, c'est un truc qui a pas changé, quoi. Donc tant mieux.
Tu veux lire le petit passage ?
Ouais. Alors je vais bien.
Pour vous donner une idée un peu de l'écriture de Guillaume, qui est quand même très très
bon, juste le deux premiers paragraphes. Ouais. Donc le chapitre s'appelle « Tous à la manif » et il démarre comme ça. Nous sommes si nombreux ce jour-là que nos pas font se recroqueviller les murs. Nous marchons sagement pourtant, et même plutôt lentement, mais nous sommes 100 000, emplissant les rues entre la place de la République et la place de la Victoire, levant le poing tous ensemble. Mon petit poing levé ne pèse pas bien lourd, mais ajouté à celui de mon oncle et ceux de tous ses camarades, il pourrait sûrement écraser n'importe quoi. Voilà. Bon. Moi, je sens ça encore... dans les manifestations, enfin celles que je fais à Marseille, quoi. Et malheureusement, après, tout le monde rentre sagement à la maison. Hein, c'est ce qui me déçoit. À chaque fois, je me dis, allez, là, on pourrait y aller. Enfin, casser des trucs, couper des têtes, des trucs comme ça. Et puis non, après, ça reste... Mais non, mais après, c'est un peu normal, mais bon, voilà.
Il y a peut-être un film en particulier qui a éveillé ta conscience politique, c'est peut-être Le voleur de bicyclette ?
Ouais, alors sur pas uniquement. Justice. Après, alors là, oui, j'exagère un peu parce que quand on lit le livre, on dirait que c'est que le cinéma qui fait mon éducation. Mmh. Hein.
Oui, il y a aussi le
tonton. Et politique et sentimental et tout ça. Ouais, mais bon, après, j'oublie. Enfin, c'est pas très rare. Ça fait pas partie du livre, mais après, il y a pas que ça. Effectivement, il y a la famille, les parents. Bon, ça, c'est quand même présent dans le livre. Mais même l'école, quoi. Et puis les camarades et tout. Donc, Le voleur des bicyclettes, non, c'est vraiment un film qui m'a fait pleurer vraiment longtemps, quoi. Mais enfin, je pense que si on voit le voleur de bicyclette dans n'importe quelle famille, on pleure à la fin. Enfin, j'espère, quoi. Mais c'est vrai que moi, en étant dans une famille ouvrière, militante, syndicaliste et communiste, ça pesait plus lourd, quoi. Hein, enfin, ça me motive. Ouais, ça sonnait pas creux, quoi, ce film. Hein. C'était pas juste, ça me fait pleurer parce que c'est triste. Enfin, ce qui est triste, c'est pas seulement voilà, le père qui a perdu son vélo et qui n'arrive pas à le retrouver. C'est limite, grâce à la culture politique, pourquoi on lui a volé son vélo déjà, quoi. Déjà, ça, c'est pas innocent. Voilà. Et puis bon, après, de toute façon, le film en dit beaucoup. Il montre le chômage, la crise, donc plein de choses. Donc oui, ça fait partie aussi de l'éveil politique, le cinéma. Ça peut jouer un rôle là-dedans. Ouais.
Oui, il y a cette très jolie phrase à la fin du chapitre consacré au voleur de bicyclette. Donc tu pleures jusqu'à Florac,
ouais.
Du Jean Vigo à Florac, inlassablement, comme à peu près toute la salle. Et tu dis, et ma mère ne peut pas me consoler, surtout pas en me disant une connerie du genre. Ne pleure pas, Guillaume, c'est juste du cinéma. Vu qu'elle sait aussi bien que moi que ce film ne montre rien d'autre que le monde tel qu'il est.
Oui, voilà. Bah après, bon, enfin, faut le voir. Hein, c'est disponible en DVD, Le voleur de bicyclette. Ça dure 1h30. Et puis, oui, c'est triste. Enfin, voilà, ça montre le monde tel qu'il est, tel qu'il était, mais tel qu'il est encore, de toute façon. Donc, ouais, alors on me dit est-ce que les ados vont se reconnaître dans ce livre ? Puisque d'abord, il y a ce côté daté, puisque c'est des films... d'abord, il y a quelques films des années 80, comme E.T., par exemple, ou alors il y a cette espèce de culture ciné-club, où je sais que, dans les années 80 à Bordeaux, on pouvait voir des vieux films. Bon, maintenant, ça a disparu, malgré l'Utopia. Mais je pense que, c'est plus du cinéma, mais les films, ils sont disponibles en DVD. Après, cette culture-là, est-ce qu'ils l'ont ? Je sais pas, mais enfin, ou différemment, mais je pense que ça peut les toucher quand même, quoi. Après, un ado vraiment, enfin, cinéphile, qui a toutes ses références culturelles, enfin, toutes ses références culturelles au niveau du cinéma, je sais pas, mais je me dis que c'est pas grave. En revanche, alors on m'a dit que, ouais, donc les gens se posent la question, est-ce que ça va vraiment toucher les ados? Ça, c'est pas sûr. Mais j'en ai pas croisé beaucoup, vu qu'il est sorti il y a qu'un mois. J'ai pas beaucoup de retours de jeunes sur ce livre. Mais j'en ai croisé, j'ai croisé une classe, en fait, qui l'avait lu déjà. Et ils m'ont dit, non, on connaît pas. Bon, après, ils connaissent quand même, Il était une fois dans l'Ouest, E.T., L'Exorciste, Scarface, voilà, il y a quatre films qui apparaissent dans le livre qu'ils connaissent. Mais ils m'ont dit, en revanche, ouais, ça nous donne envie de voir ces films, quoi. Donc je me dis, ça déjà, c'est bien. Voilà. Une bonne raison pour les voir, en tout cas. Mais, ouais. Donc après, oui, je sais pas si... Mais enfin, ouais, mais cela dit, les ados vont quand même au cinéma, mais ils peuvent plus trop voir de vieux films dans les cinémas.
Scarface tourne toujours.
Oui, en DVD et tout. Oui.
Pourquoi on appelle à la télé? Donc, pour revenir au livre, c'est la première question que tu te poses quand tu es tout petit, que tu poses à ta mère.
Ouais.
Qui te répond que la télé, c'est pour les vieilles gens qui s'ennuient.
Ouais.
Après, elle ajoute, ça rend les yeux carrés.
Ouais.
Et le tonton dit, c'est un poison qui rend con. Donc, il y a plein de formules comme ça, assez choc. Est-ce que ça n'a pas été aussi le signe qui a marqué une espèce d'exclusion pour toi, d'être trop différent, d'être le seul?
Non, mais ça, alors, il y a des lecteurs qui voient ça, mais moi, je ne l'ai jamais pris pour un truc de différence. Enfin, dans la cour de l'école, peut-être que ça résonne comme ça. Ouais. Puisque je comprends pas ce qu'ils disent et tout, mais j'exagère quand même. J'ai pas mis longtemps pour comprendre ce que c'était la télé et tout. Ouais. Mais non, c'était pas un truc d'exclusion. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que ouais, je voulais la télé, quoi.
Ouais.
Enfin, mais comme tous les enfants. Ouais. Enfin, de toute façon, ce qui est vrai aussi, c'est que j'ai toujours été le seul de mon école et de mon collège et de mon lycée à pas avoir la télé. Mais alors, j'ai jamais pris ça pour un truc, même si c'est vrai que ça sonne un peu comme ça, puisque je dis que les élèves, ils me regardent comme une énigme ou un truc comme ça. Non, je pense pas. En tout cas, moi, j'ai jamais vécu comme un genre le paria de la télévision ou une exclusion vis-à-vis de mes camarades. Loin de là. Et puis même, au fur et à mesure, je sais que ça devait être à partir de la classe de 4e, quand vraiment je commençais à aller beaucoup au cinéma, je me vantais même de pas avoir la télé. Mmh. Voilà. Pour moi, c'était une espèce de marque. Déjà, je suis pas comme les autres, donc ça, c'est bien. Voilà. Et puis, non, je l'ai jamais vécu comme un truc c'est grave et tout. Je l'ai vécu comme un truc chiant, parce que, c'est chiant de voir que les autres, ils voient des trucs, même pourris, je veux dire. Enfin, ou un match de foot, ou une série, ou un dessin animé. Et moi, je pouvais pas. Donc, j'ai quand même bassiné un peu. À un moment donné, ma mère a dit, allez, la télé, la télé.
Ça sent le caprice,
comme un chien, quoi. C'est-à-dire, un chien, je voulais un chien aussi. Ça, j'en parle pas, parce que c'est pas le sujet. Mais je disais, allez, un chien. Alors, si on n'a pas la télé, il me semble me souvenir de négociations comme ça. Alors, si on prend pas la télé, on prend un chien. Et puis, on n'a jamais eu ni un chien, ni la télé, quoi. Donc voilà. Mais j'ai pas vécu ça comme un truc malheureux et tout. Non. J'ai dû faire 2-3 crises.
La scène de Tom Sawyer, là, il y a ta
ouais,
mère
non,
qui
là,
t'amène.
Là, j'invente.
C'est une invention, c'est une jolie invention.
Ouais, j'invente.
Alors,
le livre.
Pour ceux qui ne l'ont pas lu, en fait, donc Guillaume veut la télé parce que tous les copains voient le dessin animé japonais Tom Sawyer qui déboule sur Antenne 2.
Je ne sais pas.
Bref. Et donc, il chante la chanson du générique à son tonton communiste, que ça énerve, donc c'est de la fiction.
Ouais, ça, c'est pas vrai. En revanche, vas-y, continue.
Et donc, sa maman, pour lui faire plaisir, parce que c'est une femme gentille.
Ouais, à la base, ouais.
lui offre Tom Sawyer de Mark Twain, donc le livre. Et Guillaume lit, donc il pourrait... être reconnaissant, sauf que là, c'est la grosse crise, quand même. Enfin, dans le roman. Hein. C'est une autobiographie fictionnelle, on va dire.
Oui, j'invente des trucs, sinon ça serait trop pénible. Mais non, mais en revanche, enfin, ça c'était pour exagérer l'argument classique, parce que ça, enfin, je sais pas si j'ai l'invente, mais il me semble me souvenir de ça quand même. Genre, je dis ouais à ma mère, il y a Tom Sawyer à la télé par exemple. Elle me dit ouais, mais Tom Sawyer, ça vient pas de la télévision, c'est un livre. Alors elle me l'a pas offert, mais je sais que je l'avais pris à la bibliothèque du coup, quoi. Et puis j'avais pas réussi à le lire de toute façon parce que c'était pénible. Hein.
Donc ça vire dans le roman autobiographique.
Oui,
donc
oui,
ça vire
après j'exagère des trucs. Mais ça vient pas de nulle part. Ouais. C'est-à-dire, ça vient de cet argument que j'ai entendu plusieurs fois quand même. Ouais. Oui, mais il y a les livres. Ouais. Enfin, voilà, par exemple, Tom Sawyer, ça existait en livre, c'était même avant un livre, etc.
Alors, justement, est-ce que le cinéma, c'est mieux que les bouquins pour l'imaginaire?
Je sais pas ça. En tout cas, moi, je sais que même si c'est juste dit très vite dans le livre, mais moi, j'ai jamais eu de problème avec la lecture. Je sais que en CM2, je sais que là, j'ai commencé à aimer lire. Peut-être je lisais avant, je m'en rappelle plus. Mais en CM2, j'ai lu La Guerre des Boutons et c'est là où je me suis dit, ouais, c'est super et tout. Mais après, genre, est-ce que c'est mieux ou pas que le cinéma pour l'imagination? C'est ça, ça la question.
Ouais,
je sais pas. En tout cas, moi, je sais que le cinéma, même quand j'ai aimé lire, et même c'est toujours le cas, hein, mais dès le CM2, j'ai quand même toujours préféré le cinéma. Parce que ça me touchait plus, ça me marquait plus. Donc je compare pas les deux, quoi. Je dis pas il y en a un mieux que l'autre. Je sais qu'en revanche, le cinéma, moi, il me plaît davantage.
Hein. Et ça a été une révélation donc de voir mon oncle d'Amérique à 8 ans avec des images qui restent.
Ouais, ben alors ça c'est bizarre, mais mon oncle d'Amérique, c'est un film. Alors je l'ai revu exprès pour écrire ce livre. Alors je m'étais dit un jour. Je m'étais dit, ça fait un petit moment que je... C'est pour ça aussi, c'était l'occasion de ce livre, le contact avec l'éditeur italien. Ben, je m'étais dit, il faudra quand même à un moment donné que je parle de ça. Je vois mon oncle d'Amérique quand il sort, quand j'avais 8 ans. Donc ça devait être en 1980, ou peut-être en 79, je sais pas. C'est un des premiers films, il me semble, hein, dans mon souvenir, que ma mère m'amène voir. Alors que c'est vraiment pas un film jeunesse, quoi. Et je m'étais dit, bon... Alors j'avais des souvenirs de ce film, mais les trois que je donne là, c'est-à-dire le rat blanc, un type au bord de l'eau en train de crier, et un type qui se réveille à l'hôpital parce qu'il s'est pendu à sa fenêtre, ou il s'est jeté par sa fenêtre, je me rappelle plus. Et puis j'avais rien compris et tout. Et je m'étais dit, un jour, il faudra que j'écrive sur ces souvenirs. Et je m'étais fait un espèce de défi bidon hein, que j'ai pas tenu, c'est genre, je vais écrire sur ce film... sans le revoir, et une fois que le livre sera sorti, je le reverrai. Et puis non, je me suis dit non. Donc je l'ai revu en DVD, ce film, j'avais emprunté à la bibliothèque, pour voir, et j'ai trouvé que c'était bien, mais déjà même à 38 ans, j'ai eu du mal à le comprendre. Hein. Enfin, j'exagère, mais c'est super compliqué, quoi. C'est vraiment une thèse, comme une thèse, ce film. Donc je me dis, mais en même temps, je me dis que c'est bien d'amener du coup voir d'amener les enfants, même jeunes, voir des films qui sont pas pour eux. Hein, je me dis ça fait des choses quoi, ça, ben ça joue quoi, ça fait des trucs dans la tête. Moi, je trouve con d'amener les enfants voir uniquement, des films jeunesse, même s'il y en a de plus en plus. Et à l'époque, il y en avait pas tant que ça. Hein. Des dessins animés, il y en sortait un par an ou peut-être deux. Bon, il y avait le ciné-récré, mais alors qu'aujourd'hui, enfin depuis 4-5 ans, on dirait que chaque mercredi, il y a un film pour la jeunesse qui sort. Hein. Donc voilà, moi je trouvais que c'était...
Oui, tu dis à ce propos, il arrive que je m'ennuie, mais c'est pas un ennui assommant qui me fait gesticuler pour tenir le coup comme la dernière fois au théâtre. Non, c'est un ennui chargé de soubresauts, déchiré par des éclairs, garni de vifs hameçons incandescents auxquels je m'agrippe sans rien lâcher. Et il suffit parfois d'un plan, un simple plan, pour que mes mâchoires se tordent et que des mains invisibles m'empoignent le cœur.
Oui, donc, voilà, parce que les images ont une force, puis dégagent une émotion que je trouve, moi, vraiment... palpable, quoi. Donc...
Guillaume Guéraud a des admirateurs, dont vous êtes. Il a aussi des détracteurs qui te reprochent certaines violences, certaines vulgarités dans l'emploi d'un vocabulaire donc un peu cru. Mmh. Moi, je trouve que ce livre, comme d'autres, comme La Brigade de l'œil notamment, comme beaucoup d'autres, et le passage qu'on vient de lire en est l'exemple, révèle quand même la force des images poétiques aussi. Mmh. Et je trouve, tu me dis hein, si je dis des bêtises, et je trouve que derrière la violence, il y a aussi beaucoup de pudeur et beaucoup de retenue finalement.
Ben dans celui-là, peut-être. Après, la poésie, moi, je ne fais pas exprès.
Hein. C'est mieux.
Ben, je ne sais pas, je ne fais pas trop exprès. Des fois, j'essaie de trouver des belles images, etc. Mais bon, voilà. Après, je ne sais pas. Non, sur la... Oui, celui-là, il est plus retenu, moins brutal. Il y a un côté... Enfin, aussi, c'est un peu forcé, il y a un côté un peu nostalgique, donc qu'il n'y a pas dans les autres, puisque les autres, c'est vraiment frontal, on est vraiment dans l'histoire, etc. C'est pas un regard en arrière, donc voilà. Mais ouais, c'est plus retenu, quoi. Ouais.
Oui, c'est un peu le genre qui veut ça. En tout cas, on comprend, je trouve que ça éclaire beaucoup les romans précédents.
Ouais.
Donc ça amènera certainement des gens à lire les romans précédents, justement, d'avoir cette approche-là peut-être plus douce, entre guillemets. En même temps, tu découvres des choses assez violentes, comme l'ambiguïté avec M. Le Maudit,
par exemple. Oui, mais ça, c'est grâce au cinéma. Et puis, enfin, aussi, pareil, la culture familiale et tout ça, le fait que... Ouais, que M. Le Maudit, c'est le genre le pire des tueurs qu'on peut imaginer parce qu'on suppose qu'il viole et tue des petites filles de moins de 8 ans. Malgré tout, à la fin, on est avec lui, quoi. On se dit le pauvre. Tout ça, c'est bien fait. Hein, c'est un grand metteur en scène, c'est Fritz Lang. Donc, il y a la foule qui veut le lyncher, etc. Et on se retrouve plutôt de son côté en tant que spectateur. On se dit, merde, le pauvre, il a tué des petites filles. Bon, c'est grave, c'est vrai, mais il ne mérite pas de mourir.
Oui, quoi. Oui, tu vas jusqu'à dire, il me ressemble. Donc, une espèce d'empathie.
Non, mais parce que le film est fait comme ça. Il est montré vraiment comme un enfant. Hein, alors que, je ne sais pas quel âge il a, mais une quarantaine d'années... il est montré comme un petit garçon, quoi. Donc voilà, ouais, mais le cinéma, ça fait évoluer aussi. En fonction des films qu'on voit. Enfin, tous les films qu'on voit, de toute façon, ils ne font pas forcément évoluer, mais ils nous disent des choses. M. Le Maudit, il dit clairement que voilà, c'est pas parce qu'on a tué des gens qu'on mérite la mort, quoi. Entre autres, après, il dit d'autres choses. Mais voilà. Mais après, même sans qu'on s'en aperçoive, je veux dire, il y a aujourd'hui un tas de films américains ou même français tout pourris qui disent clairement, mais qui, on sent qu'en gros, ils nous disent ce qu'on nous répète à longueur de temps, consommer, la vie de société de consommation, c'est le paradis, c'est le plaisir, tout ça, voilà quoi. Et M. Le Maudit, ça dit autre chose. Enfin, comme le voleur de bicyclette. Hein. Voilà.
Et l'émotion de la strada ?
Non, mais la strada, j'en parle juste parce que, il me semble. Alors, il me semble que c'est le premier film devant lequel j'ai pleuré. Je l'ai revu l'autre jour à Marseille, là, il y a une semaine, parce qu'ils m'ont invité dans un cinéma où ils l'ont passé, dans le cadre du livre, là. Donc il m'avait invité. Alors c'était un cinéma de quartier et il y avait la salle était pleine quoi. Il y avait 150 personnes. Alors je me disais, vu que là vous êtes pas nombreux, je me disais c'est pas moi qui venais voir, c'était le film en fait. c'était génial. Donc voilà. Et puis il y avait plein d'enfants. Ça j'étais vachement content. Il y avait plein d'enfants de 8, 10 ans, 12 ans. C'était sous-titré en plus. Il y en avait plein qui pleuraient et tout, donc ça c'était pas mal. Ouais. Mais en plus, c'est un lien avec M. Le Maudit, alors à une moindre échelle, mais la strada, c'est une espèce de brute qui martyrise un peu une fille, enfin qui exploite une fille, bon, qui elle est un peu simplette aussi, mais et puis lui à la fin c'est un peu comme M. Le Maudit, hein. C'est, je suis sûr que c'est, enfin Fellini il a vu M. Le Maudit avant de faire ce film, parce que enfin la brute elle finit par se retrouver toute seule et par pleurer et elle fait de la peine aussi, donc bon.
Alors, dans Sans la télé, il y a du cinéma beaucoup. Donc, chaque chapitre, c'est un film qui correspond à une émotion. Et tu parles aussi de la vie en cité, des copains, du foot, de Saint-Étienne, période, de beaucoup de choses. Et puis, à l'adolescence, il y a une espèce de rupture. Il y a la scène de l'arrestation de Yaya.
Ouais.
C'est un vrai copain ?
Ouais, c'est arrivé. Ouais, c'est arrivé.
Et donc ça te met les nerfs en vrac.
Ouais.
Enfin, au personnage.
Ouais.
Et là encore, c'est le cinéma qui sauve avec Scarface.
Ouais, plus ou moins. Bon, qui après, exprime, oui. Enfin, dans le livre, oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu des événements plus ou moins violents dans le quartier, mais enfin de temps en temps, quoi. Et c'est vrai que. Enfin, il y a un moment où, alors je sais plus vraiment à quel moment, enfin dans ma vie, dans le livre, c'est clairement à ce moment-là, mais il y a un truc qui me fait basculer dans les films violents. Hein, je me suis mis à aimer ça. Je trouvais, et puis même encore aujourd'hui, il y a des coups de feu. Alors l'histoire, elle peut être nulle et tout, mais je trouve ça génial. Ça me fait du bien. Ça
oui,
me fait
c'est,
du bien.
C'est ce que tu dis,
ça me calme. Ouais. Plus il y a des coups de feu, plus il y a des morts, plus je suis content. Ouais. Au cinéma, au cinéma. et puis même, alors, c'est pas juste ça me calme et ça me fait du bien. Alors ça, c'est moi en tant que spectateur. Mais cela dit, ça a cet effet sur pas mal de spectateurs, même s'il y en a que ça énerve, il paraît. Mais moi, je suis plutôt content de ça. Enfin, ça me calme. Et après, il y a autre chose, c'est que généralement, je trouve que c'est beau. Le sang, les coups de feu, les balles qui rentrent là. Enfin, dans les films, je trouve que c'est beau, c'est fait au ralenti et tout. Il y a la poussière qui se soulève, les vitres qui se brisent et tout. Ouais, je trouve que c'est joli. Et alors, je sais pas, j'ai pas analysé ça au niveau psychologique ou quoi. Peut-être que c'est lié à quelques épisodes violents du quartier, mais enfin, je crois pas. Non, moi, je crois que... cela dit, j'ai pas parlé de ça dans le livre, mais peut-être que c'est lié... Alors, psychologiquement, mais là, vous en foutez, mais c'est pas grave, je vais en parler. C'est peut-être que moi, dans la vie, j'ai peur. Enfin, de me battre, par exemple. Même à l'époque, là. Peut-être qu'il y a une espèce de... d'envie de, enfin, d'identification facile aux héros qui fusillent et qui brisent tout le monde en morceaux. Hein, peut-être ça vient plus de là, ma fascination pour la violence. Et puis, alors que même au cinéma, je trouve ça magnifique. Dans la rue, quand je vois deux personnes qui se battent, enfin, c'est pas que j'ai peur, mais je trouve ça vilain. C'est même pas beau, quoi. C'est,
ça manque de mise en scène.
C'est laid, c'est... c'est répugnant, je trouve que c'est... Ouais, ça... Peut-être j'ai vu trop de films comme ça. J'aurais dû avant voir des gens plus se battre. Et j'aurais pas aimé les films parce que c'est vrai que... Enfin, même s'il y a quand même des films qui se la jouent réaliste au niveau des coups de feu et des bagarres, et ça fait pas du bien. Mais voilà. Je sais pas vraiment d'où ça vient. Mais il y a un côté, oui... Enfin, c'est un peu dit dans le film, dans le livre, on peut le sentir. C'est un côté défouloir, exutoire, qui calme et qui fait sortir un peu de la pression, enfin sociale même. Je veux dire, le fait d'être dans un quartier comme ça, avec la politique qui change pas. Enfin, c'est le cas dans le livre. Hein, on croit que tout va s'améliorer à un moment donné, et puis les choses restent les mêmes, à quelques détails près. Donc voilà. Même si j'exagère, parce que quand on lit dans le livre, on dirait que moi, j'ai une conscience politique développée à 8 ou 12 ou 14 ans. C'est pas le cas. Hein. Il y a des trucs qui font écho, mais moi, je réfléchis... Enfin, c'est plus clair chez moi depuis la fin de mes études, en fait. Hein. Même quand j'étais au lycée, enfin, même si j'allais aux manifestations ou quoi... c'était pas très clair le côté enfin même le communisme, le côté militant, le rôle des syndicats, tout ça, le monde ouvrier, j'avais pas de même en vivant là-dedans. Ouais, c'est venu plus tard. Mon côté vraiment enfin engagé, je dirais pas ça mais militant ouais, je crois même que j'ai commencé à voter communiste sans enfin dès que j'ai voté mais sans être vraiment conscient du enfin de pourquoi quoi, des bonnes raisons, hein. Maintenant je le fais mais je sais que c'est pour une raison valable.
Hein, conviction.
Voilà. C'est venu tard. Alors que là, on dirait que voilà, ouais, je suis un enfant, ouais, je sais pourquoi il faut faire des révolutions, etc. Bon, j'exagère un peu. Je pense que d'ailleurs, enfin, c'est moi, mais c'est propre à beaucoup d'ados. Quand on est ado ou enfant, on sait ce que c'est ou on apprend ce que c'est une injustice, mais politiquement, non, c'est pas très clair, quoi. C'est. Voilà.
Et en tant qu'écrivain, tu as un rôle social à jouer ?
Non, je crois pas. Non. Enfin, je crois pas, ça serait trop prétentieux ou trop ambitieux de dire ça. Non. Enfin, moi, j'essaie d'écrire des livres en mettant comme ça des fragments de en racontant. Bon, là, c'est mon histoire, mais généralement en racontant des courts épisodes d'une vie, d'existence, des morceaux d'existence. Avec déjà, c'est une prétention énorme. La prétention d'ouvrir les yeux, un peu les yeux des lecteurs sur tel ou tel problème, sur telle ou telle question, mais sans donner de réponse, sans faire la morale. Et après, oui, il y a quand même... Même si souvent dans mes livres, il y a des personnages en révolte et en lutte, et pas pour rien, voilà, c'est le seul... lien qu'il y a entre mes livres, mais un rôle social, non, enfin, je n'arrive pas à comprendre même ce que ça veut dire, rôle social pour un écrivain. Enfin, surtout quand on écrit des romans. Hein. À la base, on se contente de raconter des histoires pour essayer de provoquer des émotions.
C'est déjà pas mal.
Ouais, mais là-dedans, il n'y a pas de rôle... très social. Moi, je trouve que voilà, le rôle social, c'est mieux d'aller manifester socialement plutôt qu'écrire un livre. Hein.
Même s'il y a des idées qui passent.
Oui, mais j'y crois pas trop aux idées qui passent dans les livres et tout. Enfin, peut-être. Des fois, alors moi, je dis chaque fois ça, la littérature a aucun poids, elle change pas les vies, etc. Et des fois, je tombe sur quelqu'un qui me dit « Ah si, moi j'ai lu La Route, et on m'a dit ça il y a longtemps, moi j'ai lu La Route de Kerouac, et du coup je suis parti sur La Route. » Bon, ben, peut-être, ça doit arriver, mais enfin moi, ouais, s'il y avait un rôle social pour celui-là, j'aimerais bien que tous les gens qui le lisent détruisent leur télévision.
Hein. Et aillent au cinéma.
Mais j'y crois pas, ça va pas être, ça va pas être possible, quoi, enfin c'est...
Non, mais par contre, ça fait se précipiter au cinéma, ça, c'est sûr.
Ben, j'espère, ouais.
Ou sur les DVD, faute de pouvoir...
Ouais.
Tu es, je crois savoir que tu es influencé par des auteurs comme Manchette, par exemple. Tu lis pas
non,
mal
pas
de romans noirs,
non ? Pas du tout. Manchette, non, pas non. du tout. Alors, j'ai lu... plus. En fait, on m'a offert, mais il y a longtemps maintenant, genre ça, dans une collection là où il recueille tous ses livres... Et j'en avais lu 3 très bien. Donc La position du tireur couché, là, qui vient de sortir en BD illustré par Tardy. Le petit bleu de la côte ouest et Nada. Ça, c'est des livres qui m'avaient plu. C'est des petits romans hein, policiers, enfin des petits romans noirs. Et puis après, du coup, j'avais dit, ah ouais, j'ai adoré ces 3 livres. Et une amie m'avait offert genre le recueil de tous ces romans. Et j'ai lu les autres, mais ça m'a ennuyé, quoi. Ça m'a ennuyé. Et puis même politiquement, je trouve que Yana, c'est...
discutable.
Ouais. Et Nada, ça m'avait plu. Nada, c'était, enfin, c'est le premier que j'ai lu. C'est peut-être pas le mieux, mais c'est justement un groupe de terroristes. Enfin, pas terroristes. Enfin, peut-être, mais je sais pas, extrême gauche ou anarchiste qui prennent un politicien en otage, puis ça arrive, il y a les flics qui arrivent à la fin, c'est un peu la boucherie, il me semble, à la fin, et on connaît pas leur motivation et tout, mais quand j'ai lu ça, je m'étais dit, ouais, super, enfin, ce livre, ouais, c'est quand même bien, quoi.
Il y a des auteurs qui t'influencent ?
Ben, pour les idées d'histoire, non, pas du tout.
C'est le cinéma.
Ça vient plus du cinéma. Après, pour le style, des fois. Mais enfin, ça serait prétentieux. Mais oui, moi, je lis des auteurs américains qui me donnent des idées, ouais, ouais. Dans la façon de raconter l'histoire.
Très cinématographique, la façon de raconter.
Oui.
Avec une technique de montage, on se croirait au cinéma.
Ben, tant mieux.
Ouais. Ça passe.
Mais ça, ça vient de fait d'avoir vu des films. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai appris à raconter une histoire, en tout cas. Plus en allant au cinéma qu'en lisant des livres. Parce qu'au cinéma, voilà, enfin, très vite, on voit qu'on peut raconter une histoire de différentes manières, en commençant par la fin. Enfin, comme dans les livres, cela dit. Mais moi, j'ai plus vu de films que de livres. Donc, voilà, en étant drôle ou triste, ou voilà, en faisant des plans courts ou longs, ou en bougeant la caméra tout le temps ou pas du tout, avec plusieurs personnages ou pas. Enfin, voilà, donc ça vient de là. Puis en fait, alors quand j'écris, c'est aussi cinématographique parce que je vois la scène. Je vois la scène. Ça, c'est très facile chez moi. La scène que je veux raconter, je la vois. Elle apparaît comme ça, comme une scène de film, quoi. Bon, après, c'est compliqué de la décrire avec des mots. Là, ça ne vient pas tout de suite. Mais je le vois le truc. Je me dis, tiens, voilà, la manif, je le vois, je vois les plans. Enfin, par exemple, pour reprendre ce chapitre-là, voilà.
On a un peu l'impression, en fait, que tu serais comme un réalisateur qui travaillerait tout seul, qui n'aurait pas d'équipe, qui n'aurait pas d'argent, qui travaillerait dans son coin et qui ferait aussi le montage. C'est un peu...
Oui, mais c'est ça, de toute façon, écrivain, enfin, pour moi, c'est ça, c'est être tout seul. Et enfin, tout seul au moment de l'écriture et... Et puis voilà, sans avoir besoin des moyens du cinéma, puisque le cinéma, ça nécessite un producteur et puis beaucoup d'argent. Et puis il faut travailler à plusieurs, au moins des comédiens, des techniciens, des éclairagistes, tout ça. Non, non, moi je fais tout seul. Enfin, oui, ça c'est facile. Enfin, moi je trouve que c'est facile. Puis il y a un côté agréable là-dedans, quoi. Enfin oui, d'écrire parce qu'on fait ce qu'on veut. Je veux faire mourir quelqu'un, je le fais mourir. Non, mais ça, c'est bien. On est maître un peu de son histoire, du petit monde. Hop, là, j'invente des trucs. Hop, je veux, je peux. Je dis que, voilà, plein de trucs. Alors, par exemple, mon oncle, il me dit tout à l'heure, mais je disais pas de gros mots, moi. Et alors, je lui ai fait dire plein de gros mots, moi, dans le livre. Alors, hop, ça, je peux. Oui, voilà, ouais. Mais oui, mais moi aussi. Oui. Oui, mais alors, moi, j'y crois pas, à ça. Au fait que, moi aussi, j'ai la télé maintenant, mais je le regrette. Mais on dit, oui, la télé, effectivement, ça rend pas forcément con, vu qu'il y a quand même des bonnes choses à la télévision. Ouais, mais moi, je vois comment j'utilise la télé, effectivement, mais on est tous, évidemment, mais moi, je crois pas les gens qui disent, oui, mais enfin, si tu regardes Arte, ben ouais, mais qui regarde vraiment Arte régulièrement, mais tant mieux, mais moi, je vois... Moi, je vois que je suis incapable de regarder Arte. Enfin, ça m'arrive. Mais je me suis fait piéger par des émissions débiles de M6 ou même de service public. Voilà. Et à devenir accro même à des émissions pourries. Non, quand même pas. Mais je me suis fait avoir par une émission il y a 3 ans, ouais, à la recherche de la nouvelle star. Sur M6, ou voilà. Mais.
Ça va passer.
Non, mais ça passe très vite. En même temps, je me dis que c'est pas une drogue, puisque l'année suivante, je l'ai pas regardé, ça m'a pas manqué. Hein. Donc, ce n'est pas une drogue en même temps. Mais, voilà, mais ce que je dis par rapport à la télé, alors ça, ce n'est pas dit dans le livre, mais peut-être qu'on le sent aussi, c'est qu'on s'habitue à la médiocrité. Et que moi, depuis que j'ai la télévision, alors par exemple, cette émission, il se trouve que c'est celle-là, parce que je fais quand même un peu un barrage dans ma tête. Mais j'étais avec une fille, alors ce n'est pas sa faute, mais bon, elle... Parce qu'il y a la raison aussi, on regarde la télé pour se détendre après une dure journée, etc. Bon, pourquoi pas. Et elle, elle regardait ça, la recherche de la nouvelle star. Je tombe avec elle devant le premier épisode, et je vois qu'au bout de 5 minutes, j'en ai marre. Je me dis, mais c'est nul, quoi. Et puis, je fais autre chose. Et la semaine d'après, elle se remet devant, et là, je repasse devant. Je me dis, je reste plus 5 minutes, déjà mes 10 minutes. Et je me dis, ah, là, c'est un peu rigolo. Mais la troisième semaine, je reste 20 minutes devant et je me dis « Ah ouais, puis lui, en plus, il chante bien. Hein. » Et puis ceux qui chantent mal, ils me font rire. Et puis voilà, et au bout d'un mois, j'ai regardé toutes les semaines pendant 3 mois. Hein. Et malgré tout, en regrettant à la fin, chaque fin d'émission, je me dis « Ça durait 2 heures à peu près. » C'est pas 2 heures et demie en comptant les pubs et tout. Et je me disais « On a quand même perdu 2h30 là-devant pour tout ça pour voir à un moment donné 5 minutes, enfin en gros 5 minutes pour rire et 5 minutes d'un type qui chantait bien. Et puis voilà, donc c'est pour ça que je me dis on s'habitue à la médiocrité, puisque au bout de 3 mois, je trouvais ça. Enfin, j'étais carrément 2 heures devant, alors que la première fois, j'étais que 5 minutes devant en trouvant ça nul. Alors que l'émission elle-même, elle n'a pas évolué. Donc c'est justement en tant que téléspectateur qui suis devenu con. Hein. Voilà.
Pour finir sur une note positive, enfin j'espère. Et les filles au cinéma alors?
Non, mais alors là c'est dit juste que oui j'arrivais. Mais ça c'est un truc que j'aime bien. J'aime bien être seul au cinéma. Hein enfin, à un moment donné, ouais, j'allais beaucoup au cinéma seul. Parce que c'est dur de trouver quelqu'un qui ait les mêmes goûts cinématographiques. Hein. Alors bon, après, c'est vraiment... Ça doit être mon côté solitaire, puisque en même temps, c'est bien d'aller au cinéma à plusieurs sans avoir les mêmes goûts. Justement, ça peut... entraîner des discussions et tout. Mais enfin, moi, je suis solitaire. En plus, je suis hyper sectaire. Donc, moi, les discussions avec des gens qui ont adoré un film que j'ai pas aimé, j'ai même plus envie de leur parler. Hein. Donc voilà. Non, mais ouais. Donc oui, donc à l'époque, et puis bon, moi j'avais déjà un peu, alors là, à l'adolescence, cette culture, déjà aller voir les films en VO, et là je parle des films, mais c'est pareil pour les garçons, voir les films en VO, c'est compliqué quoi. Les gens ils disent, oui mais je vais au cinéma voir des images, pas pour lire les sous-titres quoi. Donc oui, donc c'était dur pour moi de trouver des filles qui avaient les mêmes goûts cinématographiques que moi, mais enfin ça existe.
Sûrement.
Oui.
Et alors, pour finir avec les filles, donc l'émotion au cinéma, c'est la découverte de la différence, de la violence du monde, de l'engagement, de la tendresse, de la brutalité, etc. Et c'est aussi Jennifer Jones.
Oui, mais après, voilà, je rattache ça au cinéma. Oui, l'espèce d'éducation, alors pas éducation sexuelle, mais enfin, je sais pas. Non, c'est pas de l'éducation sexuelle en même temps. Mais oui, alors en revanche, voilà, j'avais envie de parler d'un truc qui est peu présent dans les livres pour ados. C'est genre les mecs qui se branlent, hein, clairement, à l'adolescence. Et parce que, alors ça, c'est un copain auteur, enfin illustrateur même, qui me disait non mais moi je pourrais pas écrire des livres pour ados, puisque ça c'est lui qui disait ça, moi quand j'étais ado je faisais rien d'autre que de me branler, donc je verrais pas quoi raconter quoi. Et je me suis dit mais c'est vrai, dans mes histoires il y a jamais ça, alors que c'est un espèce de passage enfin qui colle à la réalité quoi. Et alors moi j'ai jamais fait ça parce que enfin non pas ça. Mais j'ai jamais écrit là-dessus parce que je suis un peu genre c'est un sujet avec lequel j'ai du mal ou par pudeur ou je sais pas quoi. Et je m'étais dit bon, mais là ça va être vraiment l'occasion de mettre le truc. En plus j'aime bien parce que ça a un côté finalement original. Hein. C'est rare dans les livres pour ados où les ados font ça clairement. C'est assez rare. Donc je m'étais dit, tiens, là, je vais mettre vraiment les deux pieds dans le plat et y aller à fond. Et boum. En BD ? Ah oui, 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 mais parce que ça, c'est une BD avant d'être un film.
Ouais.
Et donc voilà, donc je m'étais dit, voilà, je vais clairement parler de ça. Comme ça, ça aura un côté, vu que c'était un livre un peu en retenue, enfin dans la violence, je me suis dit sexuellement, là, ça sera pas dans la retenue, quoi. Voilà.
Et donc, le roman autobiographique, donc Sans la télé, se termine sur l'apparition de Joey Wang, donc qui va être la figure de tes personnages féminins dans beaucoup de romans, asiatiques, fines, aux cheveux d'encre.
Oui, voilà.
Donc, on va retrouver dans beaucoup, beaucoup de romans, dans La Brigade de l'œil, notamment.
Oui.
Un personnage... Tu veux lire un extrait ?
Non, non.
Non, non. Tant pis, alors on avait prévu plein d'extraits, en fait. Mais plein, hein. Et vous aurez donc l'occasion de les découvrir tout seul, en découvrant donc la lecture de Sans la télé.
Ouais.
Ça peut être une bonne idée de lire finalement tout seul, chez soi, ailleurs, eux, je veux dire.
C'est-à-dire lire le livre ?
Oui.
Hein, oui.
On les encourage ?
Ben oui, 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 oui. Non, mais il faut le lire, oui, c'est sûr. Et le distribuer.
Ouais. Hein,
et le distribuer.
Donc
voilà.
C'est un roman de formation, c'est un roman sur le cinéma, c'est un roman émouvant, c'est un roman involontairement poétique, on va dire. Donc,
ouais, ouais, ouais.
Et qui donne envie donc, de voir des films et de lire tout Guillaume Guéraud, donc 10 romans pour ados et puis les autres. Et on espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, Guillaume, la librairie t'est ouverte.
Bon, mais merci. Ouais, ouais, tant mieux. Ouais. Ouais. Non, non, mais c'est bien.
Tu as ajouté
Ben moi, non.
Non. Alors, qui a des questions ?
Est-ce que ça a été plus dur d'écrire sur soi que d'écrire
une fiction ? Alors, ma mère, c'est marrant parce qu'elle me pose des questions en public et puis quand on est tous les deux à la maison, elle me dit rien. Alors, ouais. Non, mais comme ça fait participer un peu les gens, c'est bien. Donc, ouais. Je sais pas, c'était un peu pareil. Enfin, je sais qu'il y a eu un virage dans ce livre. Enfin, quand je l'ai écrit, alors pour répondre à la question, non, pour moi ça a été pareil. C'était pas plus compliqué, quoi. Non, c'était pas plus compliqué. Mais je sais qu'il y a eu un virage, c'est que. En fait, toute la première partie du livre, il est plutôt enfant. Il s'exprime d'ailleurs un peu plus comme un gamin plutôt qu'après. Et au début, j'adorais le fait qu'il écrive un peu comme un enfant. Il parle de tout ça. Et après, il y a le virage de l'adolescence, là, à partir d'Iaya, je crois, et tout ça, enfin, de l'arrestation, où ça devient plus grave, j'ai l'impression. Alors que le début du livre, j'aimais bien cette espèce de côté... vif, énergique,
ouais,
un peu enfantin. Et après, c'est devenu plus grave. Et quand je suis arrivé au bout de l'écriture, je l'ai relu. Enfin, c'était pas un livre encore, c'était juste le manuscrit. Et je me suis dit, j'adore la fin et j'aime pas le début. Hein, j'aimais pas ce côté, justement, enfantin et tout ça. Tout ça, alors, par rapport à la question, parce que la deuxième moitié du livre est plus grave et me rappelait mes livres de fiction précédents. Hein, que ce soit, alors, c'est pas de la même teneur, mais « Je mourrai pas gibier » ou « Le contour de toutes les peurs ». Voilà, il y avait cette espèce de ce côté un peu brutal, un peu sombre. Oui, oui, en tout cas, assez noir, quoi. Là, je me suis dit, ouais, en tout cas, je vais arrêter, enfin, j'en ferai plus, hein, des trucs personnels à raconter enfin, même si on me le recommande, même si on me dit, enfin, ça on me l'a jamais dit, mais ou la suite, ou raconter une histoire personnelle, non, j'ai plus envie. J'ai plus envie parce que je sens que je suis plus à l'aise, de toute façon, ouais, dans l'écriture, des fictions, voilà. Et c'est pour ça, même le début, enfin là, du coup, bon, les deux éditeurs, là, enfin, l'Italien et le Rouergue, ils m'ont dit non, pas du tout, même le début est super bien et tout. Mais moi, je suis plus attaché à la fin, quand ça se met à ressembler davantage à mes romans noirs précédents. Hein. Je trouve qu'il y a un truc plus grave. Il y a un côté beaucoup moins sérieux au début.
Si tu avais un film, le film préféré, c'est toujours L'année du dragon ou...
Non, L'année du dragon, ça a été longtemps le cas. Mais enfin, moi, j'ai pas qu'un film préféré. Même quand, là, je cite L'année du dragon, parce que c'est un film qui m'a marqué. C'est un film policier américain du milieu des années 80. Je trouve qu'en même temps, alors, il y a une histoire brutale de mafia, etc., policière, mais qu'à côté de ça, c'est aussi un grand film sur l'immigration, le racisme, l'intégration, la solitude et tout ça. Mais non, enfin, oui, ça fait partie des films qui comptent. Mais
pour La Brigade de l'œil, tu t'es inspiré du personnage de Mickey Rourke ?
Ouais, exactement. Ouais.
Ça serait un superbe jeu pour étudiant, lecteur, quelqu'un qui aurait du temps de faire des comment dire, d'aller piocher dans tes livres toutes les références
cinématographiques.
Ouais, moi, ce serait un jeu qui m'amuserait beaucoup si j'avais plus de temps.
On va faire un jeu de société maintenant.
Oui, c'est un peu ça. Et en littérature, est-ce que tu as des références incontournables?
Ben moi, je lis essentiellement des romans américains. Hein.
Et si tu avais un livre à conseiller à un ado, à part les tiens, bien sûr. Pas des souris.
Enfin, cataloguer. Oui, des souris et des hommes. Oui. Des souris et des hommes. Oui, et Le cœur est un chasseur solitaire aussi, voilà. J'ai lu. Je crois que Le cœur est un chasseur solitaire, je l'ai lu entre la classe de 3e et de 2e. Et puis des souris et des hommes, clairement, en classe de 4e. Voilà. Donc ça, oui. Ouais. Mais là, aujourd'hui, non, je lis essentiellement... Enfin, qu'est-ce que j'ai lu dernièrement ? Quoique pas des auteurs américains. Par exemple, j'ai lu un bon livre, avant qu'il ait le prix Nobel, là, de Vargas Llosa, là, que j'avais jamais réussi à lire. Son premier livre, je crois, La ville et les chiens, ça s'appelle. Voilà, ça m'a plu. Hein. Bon, après, lui, je ne devrais pas faire sa promo, hein, parce que... Non, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il a écrit des bons livres, en plus, politiquement ancrés, clairement, il me semble... Alors, moi, j'ai lu que celui-là, hein, mais... Bon, celui-là, il n'est pas très clair, ça se passe dans un pensionnat militaire, hein, mais je crois qu'il a écrit des trucs politiquement ancrés plutôt... à gauche, extrême gauche, Amérique du Sud et tout. Et puis depuis 30 ans, c'est devenu il fait la promotion du grand capital, du libre-échange et tout ça. Il considère que Margaret Thatcher, c'est sa mère adoptive. Ronald Reagan, son père spirituel. Enfin, il y avait un article dans Le Monde diplomatique de ce mois-ci, là, d'ailleurs, là-dessus. Où ils disent, bon, mais ces romans, c'est super, mais lui, c'est n'importe quoi, quoi. Bon, enfin, voilà. Le dernier bon livre que j'ai lu, c'est ça, voilà. C'est La ville et les chiens, de lui. Et puis, alors, j'ai retrouvé un truc, là, que j'avais jamais lu. C'est, par exemple, La vie devant soi, de Romain Gary, là. J'avais jamais lu. Et je trouvais que c'était génial, puisqu'il écrivait comme un ado, dans ce livre. C'est raconté par un petit garçon. Enfin, il a entre 8 et... À la fin, il doit avoir 12 ans, ou entre 12 et 14 ans. Et c'est super, il y a un langage parlé, familier. Ouais, ça m'a vachement plu. Voilà, c'est les deux derniers livres que j'ai lus. Ouais, c'est ça. Non, puis j'ai lu autre chose, là, le dernier. Ah oui, voilà, c'est ça, Les saisons de la nuit. Voilà, de Callum McCann. Ouais. C'est le dernier livre que j'ai lu, c'est celui-là. Voilà.
C'est déjà pas mal. Si vous voulez découvrir une autre facette de Guillaume Guéraud, donc toujours liée au cinéma, il manipule quand même la caméra sur YouTube. Il y a des purs moments de bonheur pour ceux qui ne connaissent pas. Donc vous tapez sur un moteur de recherche, Guillaume Guéraud vidéo par exemple, et vous allez tomber sur toute une série de créations, de courts-métrages filmés dans ton chez-toi personnel.
Ben oui, je fais des petits films pourris avec mon appareil photo.
C'est pas si pourri que ça.
Enfin, fait maison, bricolé, pour rigoler un peu. Mais sauf que j'en fais plus. Je faisais ça quand je m'ennuyais. Et puis je m'ennuie plus. Donc j'ai laissé tomber. Mais voilà, je donnais des petites leçons d'écriture.
Il y a aussi les montages.
Oui, et puis alors là, j'en ai fait de un peu, là, c'est pas que je m'ennuie, mais des fois, je sais pas quoi faire quand même. Alors, je fais des petits clips, mais on me voit plus dedans, et puis voilà. Mais
celui sur Denis Hopper, l'hommage à Denis
Hopper. Oui, c'est vrai, j'avais fait ça aussi, j'avais oublié.
Si vous voulez voir je m'en vante pas.
Je vante mes livres et tout, mais mes petites vidéos, je m'en vante pas. Et je sais pas où me mettre quand on m'en parle. Même quand on me dit c'est super, c'est rigolo et tout, je me dis bon ouais d'accord, mais tant mieux, mais je sais pas trop où me mettre. Ouais.
Donc on va libérer Guillaume. Merci Guillaume d'être venu.
Ouais ben non,
de
merci
de nous avoir parlé avec passion.
Non, je suis content. Chez Mola et tout, c'est la classe. Non mais c'est vrai, ils reçoivent Laurent Fabius le 1er décembre. Ouais, Bettencourt demain. Donc, mais c'est bien. Mola, non, c'est super, je suis content. Puisque. Non, mais moi, j'habitais Bordeaux, donc je venais chez Mola, forcément. Et ouais. Non, je suis vachement flatté. Ouais.
Mais nous, on a été très contents.
C'est vrai.
On a été très contents.
C'est la plus grande librairie de France, en plus.
Ouais, carrément.
Je vais le mettre dans mon CV, quoi. Dans ma bibliographie, non, vraiment, c'est super.